RCF.
Nous poursuivons avec vous, Jean-Marie Guelette, notre dialogue sur le thème de la guérison. Nous parlions du croire, de la nécessité de croire quand on est malade, mais aussi croire quand on est médecin. J'aimerais qu'on continue à parler de se croire avec le thème de la foi également, puisque en milieu chrétien, actuellement, ce thème de la guérison, il est très développé. De quelle manière exactement? Parce que je suppose que vous avez un peu enquêté sur le sujet pour votre livre.
Il y a déjà un enseignement non négligeable que nous apportent les bibliothèques. Quand on regarde la littérature chrétienne sur la maladie ou destinée aux malades, moi j'ai repéré un peu trois époques, en tout cas en milieu catholique, c'est tout à fait clair. À l'époque où la médecine n'était pas très efficace, c'est-à-dire que en gros jusque dans les années 1950, massivement, la production de livres de spiritualité était sur le sens de la souffrance, l'offrande de ses souffrances à Jésus.
Le sacrifice,
vivre sa maladie avec le Christ, etc. N'oublions pas que, on pourrait dire, on n'avait pas trop le choix, c'est-à-dire que la plupart des gens qui étaient malades savaient qu'on n'allait pas pouvoir faire grand-chose. Et il y avait juste la place, on pourrait dire, pour des situations comme Lourdes, la guérison comme miracle, situation exceptionnelle et complètement en dehors du champ habituel, quoi. Ce que je trouve très intéressant, c'est que quand on a cette irruption de thérapeutique efficace après la Deuxième Guerre mondiale en médecine, eh ben cette littérature-là s'arrête. Parce que faut pas rêver, on ne développe pas une spiritualité hors sol, si on peut dire, on est bien dans une culture. Et il est bien évident que lorsque les tuberculeux se mettent à guérir de leur tuberculose, s'ils ont sous la main que des livres qui leur disent offrez votre tuberculose et sacrifiez-vous,
ça fonctionne pas.
Ça fonctionne plus. Donc une espèce de sidération du discours sur la maladie, et pendant 15-20 ans, on voit plus paraître grand-chose. Et puis pour dire, une fois qu'on s'en est remis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis assez convaincu qu'on continue à lire l'Évangile comme on le faisait avant, mais qu'il y a des récits de l'Évangile qui tout d'un coup se mettent à prendre une autre dimension. C'est-à-dire que tous ces récits de guérison que jusque-là on devait lire en disant bah c'est une guérison spirituelle, je sais pas comment on s'en sortait, parce que de toute façon ça nous concernait pas d'une certaine manière. Là on se dit oui, on a des gens sous les yeux qui guérissent, donc la guérison c'est possible. Donc pourquoi est-ce que la guérison ne serait pas aussi possible dans le registre spirituel? Et c'est là qu'on voit apparaître toute une littérature et toutes sortes de pratiques qui vont dire oui, on peut guérir par la prière. Mais il faut pas il faut pas négliger le fait que ce grand développement de la quête spirituelle de guérison n'est pas apparu par hasard, et il est apparu dans une société qui se mettait à guérir. Ce qui est intéressant, parce que c'était donc pas à cause des échecs de la médecine qu'on se mettait en disant un pis-aller. Vous savez, autrefois on disait, quand le médecin sort de la chambre du patient, le prêtre rentre, parce que ça y est, c'est fini.
Mais c'est étonnant, justement, puisque on évoquait les formidables progrès de la médecine, et c'est parallèlement où se développe cette redécouverte des textes d'évangile.
Voilà, on s'est mis à penser à nouveau que la guérison c'était possible, alors que on pourrait dire que au 19e siècle la guérison était complètement hors en dehors du champ à la fois de la médecine et de la vie spirituelle. Je vous dis, les miracles de Lourdes sont des
épiphénomènes.
Oui, des phénomènes qui ne concernaient que quelques personnes.
C'était Alors, pas... qu'est-ce que nous dit le Christ là sur la guérison dans les évangiles? C'est vrai qu'il y a beaucoup de récits, hein.
Ah oui, il y a énormément de récits, et je crois qu'il est capital de les lire, ce récit, pour voir que la guérison n'est pratiquement jamais racontée pour elle-même, c'est-à-dire que l'objectif n'est pas de nous montrer Jésus comme super thérapeute particulièrement efficace, première chose, et deuxième chose, le but n'est pas de nous montrer Jésus comme inventeur d'une méthode thérapeutique. L'objectif clair de ces récits, c'est de faire de la guérison un signe pour la foi. Avec le paralytique, par exemple, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi et marche. Donc le relèvement du paralytique de sa civière n'est pas un but en soi. Le but, c'est que nous sachions que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Donc la guérison les guérisons opérées par Jésus dans les récits évangéliques sont toujours racontées comme signe pour nous faire comprendre qui est Jésus, pour nous faire entendre quelque chose de l'ordre du salut. En voyant un homme couché par terre qui se met debout et qui marche, nous avons là sous les yeux une image du salut. Mais la guérison n'est pas une finalité en soi dans le récit évangélique.
Jean-Marie Guelette, vous avez introduit la notion de salut. Alors revenons sur ce Jésus qui sauve. La tradition chrétienne insiste pour dire que la santé et le salut sont deux choses différentes. Quelle est la différence entre les deux ? Santé et salut ?
La différence, c'est la vie avec Dieu. C'est-à-dire que le salut, c'est le don que Dieu nous fait d'entrer dans la communion avec lui, d'être en communion avec lui, d'être habité par sa présence, d'être habité par son esprit, d'être...
Et ça peut se faire si on est malade.
Oui, bien sûr.
Ça n'a rien à voir avec la guérison physique.
On ne peut pas dire que ça n'a rien à voir, parce que la guérison peut être un signe qui nous donne à comprendre quelque chose, mais c'est sûrement pas identifié, c'est-à-dire que la vie avec Dieu ne nécessite pas une santé de bonne qualité. Il faudrait surtout pas envisager qu'il faille d'abord acquérir la santé pour ensuite entrer dans le salut.
D'ailleurs, il y a des grands saints qui étaient des malades chroniques, hein.
Et il paraît qu'il y en a pas mal qui sont morts aussi, des saints. Et donc ça, enfin moi je trouve ça extrêmement réjouissant de voir que non seulement évidemment tous les saints sont morts, mais que beaucoup de saints étaient malades, y compris psychiques. C'est quand même là encore un truc qu'on n'aurait pas inventé, nous.
Vous pensez à qui là ?
Oh, oserais-je le dire ? Non, mais il y a pas mal de saints névrosés, de saints qui avaient pas des saints qui étaient délirants, mais des saints qui avaient une lecture psychiatrique, si on peut dire, d'un certain nombre de textes de saints montrent à l'évidence qu'ils étaient névrosés. Et moi, ça me pose aucun problème. Au contraire, ça me réjouit. Je me dis, j'ai peut-être une chance comme ça. Hein, c'est-à-dire que Dieu nous aime dans nos névroses et que la rencontre de Dieu, la vie avec Dieu, ne nous transforme pas en quelqu'un d'autre. C'est une évangélisation de nos structures psychiques et c'est une évangélisation de notre manière de vivre dans notre corps avec ce qu'il est. Donc les saints peuvent être des gens mal fichus corporellement, psychiquement, de naissance, par maladie, pas très important. Et ça c'est quelque chose qui est difficile à oser dire, mais je crois qu'il faut oser le dire que c'est pas très important.
Vous dites qu'en christianisme, c'est la charité, l'amour qui est premier par rapport à la santé.
Et la vie avec Dieu. Il y a une phrase de Maître Eckhart que j'aime beaucoup, où il dit « Si tu es malade, que ce soit au nom de Dieu, si tu guéris, que ce soit au nom de Dieu, si tu en meurs, que ce soit au nom de Dieu. » C'est vraiment une manière de dire « L'important, c'est que tu vives tout ce que tu as à vivre en Dieu. » Et donc, oui, évidemment, il lui-même le dit, si tu es malade, il est normal de demander à Dieu la guérison. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de vivre en Dieu, parce que de toute façon, un jour, nous finirons par mourir. Donc, si notre relation à Dieu consiste simplement à lui demander de retarder ce moment-là, ou de faire en sorte que ma cheville me fasse moins mal alors que j'ai de l'arthrose, oui, bien sûr, c'est normal qu'on lui en parle, parce que ça nous soucie. Enfin, c'est tout à fait normal. Mais si nous en faisons là, une condition nécessaire pour entrer en relation avec Dieu, à ce moment-là, je crois qu'on est potentiellement dans une impasse, parce qu'on fait de Dieu simplement un médecin ou un dentiste et on pense pas à son médecin quand on n'est pas malade, quoi.
Le salut, donc, le fait de vivre en Dieu, dans son amour, d'accueillir son amour, c'est quelque chose qui nous est donné par rapport à ce souhait de guérison. Qu'est-ce que vous diriez
Ah ben, je pense que oui, cette expérience du don fait partie aussi des choses qui résonnent entre guérison et salut. Si une expérience de guérison peut être vécue comme une expérience qui leur fait découvrir un peu ce que c'est que le salut, c'est entre autres à cause de ça. C'est-à-dire que souvent on peut sortir, quand on sort d'une maladie grave, quand on sort de façon inespérée d'un accident, il est rare qu'on ose penser c'est uniquement grâce à moi, à ma force, j'ai reconquis la santé tout seul. On va normalement être aussi habité d'une certaine gratitude à l'égard de plein de personnes qui ont travailler, œuvrer pour qu'on guérisse. Et puis quelquefois, et c'est peut-être là que ça devient le plus intéressant, on va aussi prouver une gratitude au-delà de ces personnes. Enfin, on va vivre la guérison comme un don, de même que dans un autre registre, on peut vivre le pardon comme un don, quelque chose qui nous est donné, et où on pourrait dire, et tout le monde est dépassé, aussi bien ceux qui ont œuvré que celui qui en a bénéficié. Ben, pour le salut, c'est la même chose. Bien sûr, nous devons participer à l'avènement du salut dans le monde et en nous, mais en même temps, nous sommes complètement dépassés et donc complètement, normalement, dans la gratitude. Oui.
Un mot sur le croire, parce que souvent Jésus dit « ta foi t'a guéri ».
T'a sauvé.
Ta foi t'a sauvé. Oui, il dit pas t'a guéri. Alors.
Ouais, ça me paraît très, très important, parce que sinon on risque de tomber dans des discours qui vont dire « si vous êtes toujours malade, c'est que vous n'avez pas suffisamment la foi ».
Ou pas suffisamment prié.
Pas suffisamment prié. Donc là, à ce moment-là, c'est vraiment une instrumentalisation de Dieu au service de notre santé qui fait de, une fois de plus, qui fait de la santé la fin ultime, alors que la fin ultime, c'est le salut, c'est la vie avec Dieu. Alors en revanche, du fait de notre conception chrétienne de l'être humain, il faut dire avec tout autant de force l'autre versant, c'est-à-dire que il est tout à fait pensable dans la foi chrétienne que l'accueil du salut, l'expérience spirituelle, ait des conséquences corporelles, parce que nous sommes un. Il y a une union très très profonde entre l'âme et le corps, et donc si l'âme connaît le salut, si l'âme connaît l'expérience spirituelle, alors il est difficilement pensable que cela ne rejaillisse pas sur le corps.
Nous poursuivrons demain, Jean-Marie Guelette.